Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous.
Autour de moi ce soir, Muriel Joudet, Lucille Comeau et Thierry Chaise pour parler ensemble de 1917.
C'est le film matriciel, c'est le film qui a ouvert les vannes de tous les possibles. C'est le... Regardez la Steadicam.
Mais voilà, la moitié des acteurs ne terminent jamais une phrase.
Mais c'est ça le réalisme. Et les gens ne terminent pas leurs phrases. Il n'y a pas écouté Panorama pour voir que les phrases ne se terminent pas.
On ne devient pas critique de cinéma. Ça peut pas être une vocation, c'est à peine un métier. Moi, j'ai réussi à en vivre sans l'avoir d'ailleurs jamais voulu. Enfin, ça, c'est... Même à l'époque où il y avait encore des critiques de cinéma, les rares qui ont compté un peu avaient toujours un drôle d'itinéraire. C'était, je sais pas, qu'ils avaient oublié de faire quelque chose d'autre, qu'ils s'étaient trouvés plutôt à l'aise dans une position de médiateur ou de transmetteur de quelque chose. Alors, il y avait à transmettre.
Dimanche dernier, Mediapart a publié un article au Vitriol à propos du caractère outrancier de certains critiques du Masque et la Plume, émission phare de notre consoeur France Inter, le rendez-vous dominical de la critique culturelle depuis 1955. Alors que l'émission, de l'avis même de son animateur Jérôme Garcin, je le cite, a été fondée sur ce mélange de provocation, de rigolade, pas toujours de bon goût, fin de citation, mais j'ajoute, qui a fait son succès, il semblerait qu'aujourd'hui la donne a changé. La journaliste Marine Turki, alertée par des courriers d'auditeurs, a écouté 96 émissions et pointé les dérives sexistes, racistes ou homophobes de certains intervenants réguliers, souvent mâles blancs de plus de 55 ans. Au-delà de cette émission emblématique du service public, la question que soulève cette nouvelle polémique est loin d'être anecdotique. C'est celle de la nature et de la fonction même du métier de critique aujourd'hui. Une bonne critique se doit-elle d'être impertinente et jusqu'où peut aller la comédie? Peut-on tout dire au nom de la liberté d'expression? Et la critique doit-elle évoluer avec son temps? Enfin, la profession est-elle encore bien portante? Est-ce que, comme le disait Serge Danet, qu'on a entendu à l'instant, en 1992, il reste des choses à transmettre? Pour en discuter ce matin, deux invités. C'est Antoine Guillot. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline.
Critique de cinéma et de bande dessinée, intervenant régulier de l'émission de critique culturelle de France Culture, La Dispute par Arnaud Laporte, producteur de l'émission de cinéma Plan Large sur France Culture tous les samedis. Et en face de vous, Oriane Jeancourt, bonjour.
Bonjour à vous.
Bienvenue à vous. Vous êtes critique de littérature et de théâtre et rédactrice en chef du magazine Transfuge. Juste, on va commencer peut-être par une réaction de vous deux sur cet article de Mediapart que vous avez lu et sur ce qu'a suscité cet article. Oriane Jeancourt.
Eh bien écoutez, quand j'ai commencé l'article, je me suis dit que c'était un geste sain, ce geste comme ça, de remettre en cause les institutions, de remettre en cause un peu les rondes serviettes, voilà, des missions installées comme ça, c'est un geste millénaire, et en ça, je trouve que c'est toujours bien comme ça de critiquer les choses installées. Après, cet article m'a mis très mal à l'aise par sa forme, parce que je trouve qu'il y a un côté de procès-verbal qui me met très mal à l'aise. Je ne pense pas qu'un article critique doit être un article de réflexion, et je voyais assez peu de réflexion, je voyais plutôt une démarche policière dans l'écriture de cet article. Et puis dans le fond, évidemment, ça m'a posé un autre problème qui est où est la réflexion sur la critique comme esthétique. Ça, c'était totalement absent, donc j'ai bien vu que voilà, cet article n'avait pas vraiment comme but de proposer une alternative.
On va revenir, nous, sur cette réflexion sur la critique comme esthétique, c'est parce que c'est un des enjeux que nous allons poser dans cette fabrique médiatique. Antoine Guillot.
Moi, je trouve que l'article, même s'il a beaucoup de biais et que l'autrice de ce papier mélange parfois un peu tout, et surtout sur sa conception même de la façon dont il faudrait faire de la critique, ça, on pourra en parler. En revanche, je pense qu'elle pointe effectivement... un peu des soucis qu'on peut avoir comme auditeur, parce que je suis un auditeur régulier moi-même du Masque. On peut parfois bondir sur des formules à l'emporte-pièce qui vient sans doute de la forme même de l'émission, qui, alors Jérôme Garcin le revendique, mais qui favorise d'une part à cause de la rapidité du nombre de films dont ils doivent parler, c'est vrai pour les autres sujets, donc c'est très rapide. Et le show, les emplois dans lesquels sont la plupart des critiques pousse à ça. Alors après, il y a un choix de critique, il y a aussi un vieillissement de ces critiques, il me semble, qui fait qu'ils se sont eux-mêmes enfermés dans leur personnage, donc ça devient de plus en plus caricatural, et on obtient ce genre de propos et de dérapages qui sont parfois de bonne foi et parfois savamment calculés aussi. Il me semble que l'article de Mediapart, c'est là où il pêche, c'est qu'il ne va pas au fond du problème, à mon avis, que pose cette émission, encore une fois pour des raisons structurelles, c'est que ben, finalement, de critiques, il y en a assez peu dedans. Il y a beaucoup d'avis, il y a beaucoup de formules, mais le travail même de la critique, à mon avis, ne peut pas s'opérer dedans pour des raisons, là encore, structurelles.
Vous voyez, Ariane Jeancourt, on vient tout de suite à cette réflexion sur la critique comme esthétique. Est-ce qu'une bonne critique, c'est une critique qui mêle habilement le fond et la forme? Qu'est-ce qui doit primer? Alors en radio, peut-être que le show est aussi important, voire plus important. Vous allez nous donner votre témoignage, Antoine Guillot, à la dispute. C'est un peu différent justement comme démarche, mais est-ce que le show est plus important? Est-ce qu'il faut, effectivement, c'est l'art de la bonne formule ou c'est un art du jugement avant tout, argumenté sur le fond, sur l'histoire, sur la mise en contexte d'une œuvre d'art?
Bon, je pense que la dimension théâtrale, le côté cirque de critique a beaucoup contribué évidemment au succès du Masque et la Plume et d'un certain nombre d'émissions critiques, et ça il faut absolument pas le contester. Évidemment, il y a de l'humour et cet humour-là n'est pas toujours de bon goût, ça fait sans doute partie du jeu. Après, la critique en elle-même, alors moi j'appartiens en effet à un magazine de critique de presse écrite, donc les enjeux sont peut-être différents. La critique pour moi part du monde de la culture, part du monde de l'esthétique. Donc, il n'y a pas d'enjeux sociaux dans la critique. Le critique est là pourquoi ? Il est là d'une part pour faire le tri, pour nous dire ce qu'on peut aller voir, ce qu'on peut ne pas aller voir. Alors évidemment, c'est un point de vue subjectif, mais étant donné l'immensité des propositions, d'ailleurs de plus en plus fortes, que ce soit en littérature, en théâtre et en cinéma, je pense aussi, eh bien, face à cette immensité, on est tous spectateurs, lecteurs, désireux d'être guidés. Et le critique est là tout de même pour offrir, d'un point de vue subjectif, mais aussi d'un point de vue d'expert, je sais que c'est un mot aujourd'hui qui est très contesté, mais le critique est tout de même un expert esthétique, eh bien, il est là pour dire, moi je vous conseille plutôt d'aller voir ça que ça, et d'argumenter pour ça, mais d'argumenter avec des arguments qui sont ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire du monde de la culture, du monde de l'esthétique. N'oublions pas que le critique est du côté des artistes. Il n'est pas un touriste du monde social qui va tout d'un coup aller voir une œuvre et se dire, mais dans quelle mesure ça touche telle ou telle question sociale? Je crois que le critique n'est pas du tout là pour ça. Le critique n'est pas là pour se conformer aux grandes questions qui traversent la société, loin de là.
Antoine Guillot.
Alors, je suis pas entièrement d'accord pour ça. D'abord parce que le critique est lui-même un animal social, c'est-à-dire qu'il est représentatif d'un certain milieu dont il est issu, milieu culturel, milieu social, politique, etc., et qu'il s'inscrit dans le monde d'aujourd'hui. Moi, je suis toujours réservé. C'est vrai que c'est un problème parce que on parle des films qui sortent, des livres, etc. Donc, on attend de nous un rôle prescriptif. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit le vrai intérêt de la critique. Souvent, des auditeurs, par exemple, vont nous dire bon, je vais pas tout de suite écouter l'émission, j'attends d'avoir vu le film et je vais voir ce que vous en pensez. Il me semble que c'est effectivement ce qu'il y a de plus intéressant dans un critique, au-delà d'aiguiller en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, allez-y, faites-moi confiance, croyez-moi vraiment, ou surtout n'allez pas voir ça. Je crois que ce soit sur un film d'ailleurs qu'un auditeur aura aimé ou pas, qu'il soit d'accord ou pas avec nous, je crois que la raison même de la critique, c'est de proposer une lecture et d'ouvrir éventuellement des portes, des fenêtres pour faire voir autre chose que ce que le lecteur, qui est un lecteur ou un spectateur intelligent, a priori, aura pu voir de lui-même. C'est personnellement, moi, ce que j'attends d'une critique.
Comme une méthode d'appréhension des œuvres.
Oui, ou plus d'ouvrir le regard. Enfin, moi, écoutez, je fais, par exemple, des débats critiques régulièrement avec des enfants qui vont à école et cinéma, et on se voit après, et pendant une heure, on réfléchit ensemble. Ce que je leur explique, c'est que la critique, c'est pas de dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé, ça, tout le monde est capable de le faire, c'est de faire d'abord un travail de description, qui est extrêmement important, de décrire ce qu'on a vu, parce qu'on déjà on peut voir des choses que d'autres personnes n'ont pas vues ou ont raté d'autres. Ensuite, c'est de décrypter, c'est-à-dire de voir, notamment, et c'est une des grandes questions de la critique dans le cinéma depuis les cahiers du cinéma des années 50, c'est-à-dire de décrypter une mise en scène, de voir comment c'est fait, tout simplement, et à partir de ça, de pouvoir, c'est mon troisième dé, dévoiler ce qu'il y a dans l'œuvre, au-delà du sujet apparent, au-delà du scénario, et on voit tant de films qui semblent vous raconter une histoire, mais que dans leur manière même de la raconter, vont parfois à contresens total de ce qu'ils ont l'air de vouloir dire, et vous racontent en fait une toute autre chose qu'il s'agit de déceler. Et c'est ce que moi j'attends d'un critique, des bons critiques, enfin ceux que je lis, en tout cas, et c'est ce qui est évidemment très difficile, puisque vous faisiez mention du fait que vous, Auriane, vous êtes dans l'écriture, à la radio. C'est très compliqué parce qu'on est dans un temps contraint. Alors, la différence entre la... Je vais faire un peu la promotion de l'émission à laquelle je participe, entre La Dispute et Le Masque de la Plume, c'est d'abord qu'il y a eu le choix de traiter de moins de sujets. On va traiter de 3 œuvres à chaque fois, avec moins de critiques. Tout simplement parce que ça permet... à une discussion de s'engager, et au-delà du premier tour de chauffe où on dira oui c'est bien, c'est pas bien, après on parle du sujet, et là on peut atteindre dans les meilleurs cas au cœur même de ce qu'est la création. Alors je sais pas si on est du côté des artistes, mais on est du côté de l'art en tout cas, et essayer de montrer ce que l'art en général, que ce soit la littérature, le théâtre, le peut proposer de mieux, mais pas de manière évidente. C'est là que je dis que le temps est nécessaire pour pouvoir creuser justement.
Rien, Jean-Claude.
Alors, je suis évidemment d'accord avec vous pour dire que l'analyse du critique, et le critique est là pour donner à penser, pour donner à réfléchir et pour montrer comment est-ce qu'une œuvre peut susciter une réflexion forte et peut-être ce qui l'a motivée. Enfin, tout ça est absolument le rôle du critique. Mais tout de même, avant ça, vous parliez de l'être social du critique et vous disiez, mais tout de même, il a une histoire, etc. Oui, il a une histoire, il vient d'un milieu, c'est un homme, c'est une femme. Mais enfin bon, il a choisi d'être critique. Et qu'est-ce que ça veut dire, choisir d'être critique aujourd'hui, que ce soit à France Culture, que ce soit à Transfuge? Eh bien, c'est choisir de ne pas suivre le grand diktat commercial. C'est quand même ça aussi, souvenons-nous. Et c'est en cela que, je pense, le critique doit exister et continuera à exister. C'est qu'il y a une pression commerciale, publicitaire extrêmement forte dans le monde de la culture comme partout. Et le critique vient là et vient exercer sa subjectivité, vient faire ses choix et vient transmettre au public son admiration pour certaines œuvres qui ne sont pas suscités par la publicité ou par des diktats commerciaux. Et ça, c'est quand même un contre-pouvoir extrêmement fort et qui doit être, je trouve, par exemple, dans l'article de Mediapart, on n'en parle pas du tout, alors que quand même, c'est vraiment le rôle de journaliste, de critique, c'est-à-dire de contre-pouvoir, qui dit, voilà, en tant qu'esthétique, cette œuvre-là, même si elle n'a pas la puissance commerciale, vient nous apporter quelque chose de neuf. Et voilà. Et d'autre part, le critique fait un exercice très souvent d'admiration. Et il faut bien dire que ça devient de plus en plus rare dans notre société, des gens qui, comme ça, admirent, disent leur admiration. Et pour travailler avec beaucoup de critiques théâtraux, littéraires... et même cinéma, je les croise, ce sont des gens qui sont habités par une passion. Un critique littéraire est quelqu'un qui a baigné dans les livres depuis sa plus tendre enfance et qui veut faire ce métier, qui est un métier qui n'a pas une très grande reconnaissance sociale, de moins en moins, qui n'est pas très bien payé, mais parce qu'il veut défendre la littérature en laquelle il croit. Et dans ce geste-là d'admiration, il y a quand même un geste social et un modèle aussi de réflexion qui doit être pris en compte dans la société. S'il n'y a plus de critique, il n'y a plus comme ça d'admiration avouée, réfléchie, analysée, nourrie. Et ce serait assez triste.
Est-ce qu'au fond, du coup, Antoine Guillot, ce qui se pose là avec ce que révèle l'article de Marine Turki dans Mediapart sur Le Masque et la Plume, c'est moins finalement ce que dit Jérôme Garcin qui lui répond, le vrai problème, c'est jusqu'où peut-on faire de la critique comme autrefois on se rend compte que ce n'est plus possible, comme si il y avait une dérive politiquement correcte parce qu'il fallait que la critique suive l'évolution de la société, donc l'ère post-MeToo, etc. Que ce que dit peut-être Auriane Jeancourt, c'est-à-dire la difficulté aujourd'hui, face à la masse des œuvres, à aller repérer quelque chose, parce qu'on se laisse aller par la facilité, voire l'instinct grégaire. On parle de 6 livres, alors qu'il y a 500 romans qui sortent. On parle de 2 films qui sont des grosses sorties, mais on oublie tous les autres. Alors que, comme le disait très bien un article de Pierre Assouline en 2011 sur la critique de la critique, le rôle du critique est avant tout d'aller repérer avec les armes qui sont les siennes, les grandes œuvres invisibles dans l'immense tout venant de la production éditoriale. Et c'est porté par un amour, une bienveillance avant tout des œuvres, et pas la facilité, la provoque, le café du commerce et autre mauvaise foi.
Mais pour ça, il faudra en avoir les moyens. Je parlais d'animal social, c'est un animal économique aussi, les critiques. Et vous l'avez dit, Auriane, c'est pas très bien payé. Et surtout, c'est de moins en moins nombreux. Donc, si je prends l'exemple du cinéma, quand vous avez 15 ou 20 films qui sortent par semaine, il faut une sacrée rédaction pour pouvoir avoir un regard exhaustif sur ce qui sort et repérer les perles rares dont vous parlez. D'autant que les perles rares sont elles-mêmes...
Rares.
D'abord, elles sont rares, mais ça a toujours été le cas. On retient de l'histoire du cinéma, sur une année, on va retenir une dizaine de films. Il y avait tout autant de films, moins sans doute, mais il y avait énormément de films qui sortaient et beaucoup de mauvais films à l'époque. Il faut lire les articles des... Moi, je me suis plongé dans les articles d'André Bazin dans Le Parisien libéré dans les années 40-50. Il se navre de la quantité de navets qui sortent et il se navre aussi, comme ça revient régulièrement, que le critique n'a aucun rôle prescripteur, que de toute façon, ça n'empêche pas les gens d'aller voir les blockbusters de l'époque, même si lui a repéré telle ou telle pépite. Donc il faut déjà les moyens de faire ça. Après, c'est dans l'idéal le rôle du critique, effectivement, d'aiguiller, de dire, regardez, à côté de tel gros film, il y a ça. Mais c'est aussi celui de penser les gros films. C'est-à-dire, je pense que, là encore, je parle de cinéma, mais je pense que dans le roman, c'est pareil. Il faut penser aussi les objets majoritaires et ce qu'ils disent, et les décrypter eux aussi, qui ont souvent un fond idéologique très fort sous l'apparence du grand spectacle familial. Après, le critique est animal social et économique, mais aussi politique. Et alors, les questions que vous donner actuellement, je pense que l'article de Mediapart, on aurait pu faire le même article dans les années 50-60 en remplaçant toutes ces questions par des questions marxistes, politiques telles qu'elles étaient à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'abstraire dans notre façon de penser les films, dans la façon dont c'est reçu, des grands débats et des grandes pressions idéologiques du moment. Donc actuellement, elles sont d'ordre sociétal, sans doute tant mieux. Il y a une époque, elles étaient purement sur des questions politiques. Et on est jugé aussi par rapport à ça, puisque le critique est lui-même critique en permanence par la personne qui l'écoute.
C'est là, l'article souligne la dérive outrancière et souvent, très souvent, sexiste des critiques du Masque et la Plume. Une question qui rejoint une lettre ouverte aux nouveaux acquéreurs des Cahiers du cinéma qu'a signée la critique et écrivaine Émilie Barnett, où elle dit que sur les 20 repreneurs de cette publication mythique, culte, les Cahiers du cinéma, deux seulement de ces acquéreurs sont des femmes et qu'on manque aussi de diversité genrée, pour le dire comme ça, dans la critique. Alors, c'est vrai du cinéma, vous allez nous dire si c'est vrai aussi de la critique littéraire et de la critique théâtrale. Antoine Guillot.
Oui, on manque, c'est sûr, même si c'est en train d'évoluer, c'est-à-dire que la cinéphilie et la critique cinéphile est historiquement une histoire de vieux garçons, de clubs de garçons. Les Cahiers du cinéma ont toujours été exemplaires, mais on pourrait en parler pour la plupart des rédactions. C'est en train de changer parce que il y a 40 ans que le cinéma est enseigné dans les facultés et que j'ai pas les statistiques, mais il me semble que les élèves, les étudiants de ces filières-là sont très majoritairement féminines. Et il y a plein de jeunes critiques femmes actuellement, il suffit de les embaucher. Mais c'est important cette diversité en termes de genre, en termes d'origine sociale, en termes d'origine culturelle en général, parce que ça nous donne... Et c'est très précieux pour les lecteurs de critiques que nous sommes aussi comme spectateurs, c'est que ça nous donne là encore d'autres angles, d'autres façons de penser les films. On réagit pas pareil. Moi qui travaille l'histoire du cinéma maintenant avec cette émission que je fais le samedi après-midi, on se rend compte qu'un film d'il y a 50 ans n'est évidemment pas perçu de la même manière aujourd'hui parce qu'on n'a pas les mêmes armes critiques, il n'y a pas eu les mêmes pensées. Les études de genre dans les années 70 qui maintenant deviennent accessibles majoritairement alors qu'elles étaient très confidentielles avant ont singulièrement changé notre façon de voir les films, mais il y aurait encore à en faire sur des raisons économiques, sociales, etc., qui pourraient nous donner d'autres angles d'attaque. Donc des critiques venant de milieux différents, d'origines différentes, de genres différents sont éminemment précieuses et il faut leur ouvrir les portes des journaux, mais je ne suis pas rédacteur en chef.
Vous l'êtes. Oui. Ah, c'est un métier encore trop masculin, la critique ?
La critique cinéma peut-être, la critique littéraire et la critique théâtrale, pas du tout. Il y a énormément de femmes et depuis longtemps, et puis en critique littéraire, c'est le cas, on se souvient même de Dorothée Parker, enfin c'est une grande tradition qu'il y ait des critiques femmes et aujourd'hui, ça n'est pas du tout un problème, en tout cas de mon point de vue, dans la critique littéraire et dans la critique théâtrale. Mais là où je vous rejoins absolument, c'est pour la diversité et pour le nombre de critiques, c'est-à-dire que le critique est quand même l'expression d'une subjectivité, c'est totalement assumé, et même si le but du critique est aussi de dépasser bien sûr cette subjectivité, c'est ça d'ailleurs qui différencie le critique des réseaux sociaux, c'est qu'il dépasse sa subjectivité, et bien moins il y a de critiques, moins il y a d'expression de cette subjectivité, donc moins il y a de diversité, donc moins il y a d'intelligence en œuvre. Et il faut bien dire que la crise de la presse écrite est particulièrement la crise des pages culturelles, eh bien, va dans le mauvais sens pour ça, c'est indéniable.
Dernier mot, la critique n'est pas morte, vive la critique, Aurélien Jeancourt.
Mais la critique, d'abord, elle n'est pas morte, il ne faut surtout pas qu'elle meure. Donc il faut aussi la préserver, parce qu'il faut quand même penser que la critique est aussi menacée par des raisons économiques et par des raisons sociales qui n'aiment pas aussi cette fameuse position de surplomb qu'on reproche à la critique, à mon avis, à tort. Et donc il faut penser qu'on a besoin de la critique.
Antoine ?
Oui, on en a besoin. La critique n'est pas morte. Ce sont les espaces de la critique qui singulièrement se réduisent. Mais c'est la critique d'en inventer de nouveaux, sans doute.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette fabrique médiatique. Antoine Guillot, à tout à l'heure pour Plan Large. Auriane Jeancourt, le numéro en cours de Transfuge, février 2020. C'est Todd Haynes en couverture.
Absolument, du cinéma.
Merci.